Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben salut Antoine.
Salut, ça va ?
Ouais, ça va super et toi ?
Très bien.
Là, t'es en plein salon là au Biomime Expo
ouais,
à Paris.
Ouais.
Vous faites la promotion du Zephyr Project.
Voilà, on est monté ici à la capitale pour présenter un petit peu notre projet. Et en fait, c'est un milieu qu'on connaissait pas trop.
Ouais.
Que Marc connaissait un petit peu et qui m'a montré et qui m'a expliqué un petit peu. Et puis, bah, c'est vrai que on s'en rapproche carrément, quoi.
Ok. Bon, bah, écoute, cool. Et ça va, ça te change pas trop de ton île de Ré et du calme qu'on peut y trouver, j'imagine, hors saison.
Bah, là, c'est les vacances maintenant, là. Donc, les vacances de la Toussaint. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui sont descendus. Moi, maintenant, j'étais en plein entraînement. Donc, ça me prend quand même 2 jours, là.
Encore,
parce que j'ai une Coupe du Monde qui va arriver au Japon.
Ouais.
Donc faut pas trop que je rate mes sessions d'entraînement.
Ouais.
Mais je pense que ça va aller.
OK. Bon bah j'imagine ouais, tu peux faire un petit trou de 2 jours
ouais.
T'as l'habitude.
Ouais ouais.
OK. Et c'est pas trop crevant, tu vois ce type d'événement justement de parler à tout le monde, d'être debout un peu toute la journée, de répéter un peu les mêmes choses. Tu trouves des connexions avec le sport ou l'entraînement ?
Non, c'est pas trop long parce que c'est que 2 jours et puis et puis je pense que en tant que sportif et je pense que les sportifs ont plus la patience
ouais.
De choses comme ça que on est bon comment dire on est peut-être plus entraîné en tant que compétiteur à avoir des journées un peu pas pénibles mais des journées longues
ouais.
comme ça et puis au final c'est que 2 jours donc ouais. Aujourd'hui là c'est quand même passé assez rapidement et puis montrer un petit peu le projet faire découvrir le projet aux différentes personnes qui viennent nous voir ici. C'est quand même sympa parce qu'il y a quand même des gens qui sont super intéressés.
Ouais.
On va pas chercher les gens, c'est des gens vraiment qui viennent à nous et ça c'est ce que j'ai vu là dans le salon parce que quand je suis arrivé, je me suis dit ouais, ça va être difficile quand même, on arrive dans un milieu qu'on connaît pas trop. Pourquoi de la planche à voile à Biomime Expo.
Ouais.
Et puis au final, ce matin, j'ai halluciné parce qu'il y a plein d'autres exposants qui sont venus nous voir,
ouais.
qui travaillent dans leur domaine aussi et qui ont fait le rapprochement avec notre projet aussi.
Trop bien.
Donc ça, je trouve ça génial. C'est vraiment okay. C'est top.
Ouais, et puis j'imagine qu'il doit y avoir un partage de connaissances ou de réseau ou de retour d'expérience qui peut toujours être intéressant.
Oui, et puis c'est aussi pas mal de gens qui sont intéressés par notre projet et qui ouais. qui nous montrent aussi ce qu'ils font et nous, ça nous intéresse aussi ce qu'ils font. Ouais. Donc c'est vraiment on peut vraiment faire du travail ensemble.
Ouais.
Donc okay. c'est ça qui est génial quoi. Mmh. Et parce que moi vraiment en arrivant ici, je savais vraiment pas trop, j'ai l'habitude du salon nautique toi donc où je suis vraiment dans mon milieu ou des choses comme ça. Mais là, on est carrément dans autre chose, quoi.
Ouais, bah j'imagine. Mais on reparlera. Tu m'expliqueras un petit peu plus en détail le Zephyr Project juste après. Je suis impatient que tu me dises, tu vois, que tu me racontes un peu la genèse du projet, où est-ce que vous en êtes, comment est-ce qu'on peut vous aider, quelle est l'ambition aussi pour les auditeurs qui connaissent pas. Mais avant tout, je te le disais, ouais, j'ai interviewé bientôt 200 champions, et à chaque fois, je leur pose toujours la même première question, qui est de savoir quel est leur premier souvenir de sport.
Premier souvenir de sport, c'est tout sport confondu, c'est difficile parce que moi je suis parent de sportif.
Ouais.
Mes parents étaient beaucoup dans la natation. Après mon père est parti dans la planche à voile quand c'est arrivé en France.
Ok.
Donc faire du sport à la limite pour moi c'était quelque chose de basique. Mm-hmm. Je pensais peut-être mon père aimait bien courir. Donc okay. Je sais qu'il a souvent essayé de m'emmener courir, mais bon, moi j'ai jamais vraiment accroché à ça. Donc quand j'étais tout petit, j'allais en vélo avec lui, tu vois, je le okay. suivais en vélo. Donc ce serait peut-être ça mon premier souvenir de sport. Après, j'ai fait de la planche très très jeune, à l'âge de 5 ans, tu vois. Donc est-ce que c'était du sport à cette époque-là, à ce niveau-là? Je sais pas, ou alors peut-être un premier souvenir de sport, c'est peut-être au collège où le professeur de PS, allez les gars, on va courir 20 minutes quoi.
Ouais.
Donc c'était peut-être ça mes premiers souvenirs de sport.
Ok, ça marche. Et t'as tout de suite mordu pour les sports d'eau, les sports de vent. Tu te souviens un peu des premières émotions justement quand t'es monté sur une board à l'époque?
Écoute, j'ai pas tout de suite mordu parce que je suis né dedans. Donc j'ai pas mordu, c'est ouais. je suis tombé dedans quand j'étais petit et après bon, c'est clair qu'après tu mords à l'hameçon parce que t'aimes la sensation de liberté sur ta planche, de pouvoir naviguer à l'aide de la force du vent, d'aller plus ou moins où tu veux. Donc c'est être né dans ce milieu-là. Ouais. C'est pas comme si j'étais né à Paris et puis que une fois pendant mes vacances, je suis allé faire de la planche et j'ai adoré. Okay. Non, j'ai fait tout le temps ça. Donc du bateau, mon père a monté une école de voile en 1972, tu vois, l'année où je suis né.
Ouais,
donc pour moi, c'était normal, tu vois. Je vois un petit peu la même chose avec mon fils Alani, mon grand,
ouais.
qui il est né dedans. Donc les foils, il connaît, il a 6 ans, tu vois. Donc il sait ce que c'est qu'un foil déjà alors qu'il en a jamais fait. Il sait ce que c'est qu'une voile. C'est normal pour lui, ça fait partie de sa panoplie de jouets, on va dire, toi. Donc ouais. Donc c'est ça.
C'est ouais dans sa chambre d'enfant, enfin c'est une grosse malle et à l'intérieur il y a un club de voile quoi.
Il a sa malle avec ses jouets, mais c'est vrai qu'à l'école de voile, il a tout ce qu'il veut, un optimiste, un kata, une planche à voile, un paddle, un bodyboard, un surf, une aile de wing, tout quoi.
Et du coup, qu'est-ce qui fait que toi qui grandis dans cet écosystème-là, justement, t'avais un peu accès à tout ce que tu décris, tu vois, j'imagine, des optimistes, des petits katas, sûrement d'autres jouets, peut-être une planche de surf ou quoi. Qu'est-ce qui fait que ça soit la planche à voile qui l'a emporté et le funboard au final?
Mon père faisait de la planche, donc c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Mais okay. Il a fait de la compétition en planche, tu vois, il a fait le premier championnat de France à l'Île de Groix je crois que c'était en 76, donc il y a hyper longtemps.
Ça nous rajeunit pas.
Ouais, voilà. Bon, après en même temps il était enseignant, tu vois, et puis à cette époque-là, c'est vrai que être sportif, c'était pas un métier.
Ouais.
C'était pas reconnu comme c'est reconnu maintenant. Donc il fallait travailler pour vivre, tu vois.
Ouais.
Moi j'ai fait de la planche, j'étais champion de France minime à l'âge de 14 ans, tu vois.
Ouais.
Et puis après je suis rentré en sport études. Pourquoi? parce que je faisais des compétitions et j'avais eu un titre de champion de France minime. Après, j'étais champion de France jeune, donc moins de 18 ans. Et puis après, j'ai fait une préparation olympique et je suis parti là-dedans. Mon père faisait du funboard, parce que le funboard est arrivé après, hein, les petites planches courtes au planning et tout, c'est arrivé après. Hein. Moi, j'ai commencé la planche, ça n'existait pas, ça encore.
Ouais.
Donc, je suis parti là-dedans parce que c'était ça et c'était pas le bateau, quoi.
Ouais.
Je pense parce que mon père avait fait des compétitions en planche.
Ouais, donc.
Et puis après, je suis rentré en sport études planche.
Ouais. Il y avait une sorte de rôle modèle, quoi, qui existait peut-être.
Moi, j'essayais pas de suivre ce qu'avait fait mon père. Hein. Je pense que c'est plus mes parents qui m'ont poussé, sans vraiment me pousser non plus. Mais j'ai eu l'opportunité qu'il y a eu un sport-études à La Rochelle, donc je suis rentré dans ce sport-études-là.
Ouais.
J'ai eu un vrai entraîneur. J'ai fait des vrais déplacements sur des championnats de France, sur des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'ai suivi l'échelon normal d'un sportif.
Ouais.
Et puis après, partir sur le funboard, c'était plus attractif à l'époque, parce que c'était un peu le funboard, hein, ça veut bien dire son nom. Donc tout le monde voulait faire ça, des petites planches les plus petites possibles, arriver à sauter, à décoller l'aileron, aller vite, parce que ça planait par rapport aux grandes planches, la planche olympique d'ailleurs à l'époque. Donc c'était plus fun de partir là-dedans.
Ok, d'accord. Ouais. J'imagine plus d'amusement aussi peut-être pour l'enfant et tout que tu étais. Et tu disais que tu vois pour ton père, être sportif, c'était pas du tout un métier, mais il te pousse un peu dans la voie sport-études. Tu te souviens toi de ce que t'en penses à ce moment-là? Est-ce que il y a un espoir de faire carrière? Est-ce que il commence à y avoir des athlètes quand vivent, ou tu te dis simplement j'adore faire des compètes, donc j'y vais et puis. Qui vivra verra, on verra bien où est-ce que ça me mène.
Ben alors déjà, t'avais des idoles que tu voyais dans les magazines.
Ouais, donc ça commence.
Donc moi j'avais Robinesch, hein, comme idole, bien sûr. J'avais Anders Brindal, qui est un peu moins connu, mais qui était un grand Suédois qui marchait super bien. Il y avait pas les réseaux sociaux, donc tu pouvais pas vraiment te projeter dans l'avenir, toi. Tu pouvais pas voir ce qui était le meilleur. Et puis je pense que la mentalité était complètement différente des jeunes à l'époque. Un jeune de maintenant, dès qu'il commence un sport ou quoi, tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, je veux être champion du monde, toi. Donc à l'époque, non, un jeune de 17, 18 ans, 16 ans, même 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Bah je veux essayer de faire le mieux, quoi, je veux faire les compétitions. Pour moi, je voyais pas vraiment dans le futur. J'ai jamais eu cette vision où je vais être champion du monde. Ça m'est jamais arrivé. Vraiment, j'y ai jamais pensé. Et je sais même pas si quelqu'un me l'a demandé, quoi. Tu vois, peut-être que mon père me l'a. Je sais pas. Il faudrait lui demander, mais a priori, je pense pas qu'on m'ait vraiment demandé. Je te dis, c'était pas dans les mentalités des gens d'être champion du monde. Hein. T'étais pas propulsé par tous les réseaux sociaux, toutes les images qu'on a maintenant et tout. Donc c'est complètement différent. Tu sais, t'attendais chaque mois le nouveau Wind Magazine ou Planche Mag qui sortait pour voir ce qui s'était passé sur les compétitions, sur l'Hawaïen qui faisait quel saut, tel type de saut, tel nouveau saut, des choses comme ça. C'est pas du tout comme ça. Donc moi, je suis rentré en sport-études. Je pense que mon entraîneur, il a peut-être vu mon potentiel. C'est pour ça qu'il m'a entraîné, qu'il m'a emmené sur les compétitions. Mon père m'a fait faire du funboard à côté. C'est mes parents qui m'ont emmené sur les compétitions de funboard. J'étais champion de France jeune en funboard, champion de senior l'année d'après. Donc c'était énorme, parce qu'à 17 ans j'étais champion de France jeune et à 18 ans j'étais champion de France senior, toi. Donc c'était quand même beau. Et puis je sais pas, je pense que mon père il espérait que je marche bien,
Toi,
au niveau national. Ensuite j'ai eu quelques épreuves de Coupe du Monde où je sais même pas qui m'a inscrit ou qui m'a qui m'a dit tiens ce serait bien si t'allais là-bas, toi, ou
cadeau de Noël.
Je pense qu'on l'a décidé ensemble, bien sûr, mais j'avais un premier partenaire à l'époque après mon titre de champion de France, une marque de voile qui m'avait signé un contrat d'un an avec du budget. Bon, okay. C'est pas des 100 et des 1000, hein, mais c'était j'avais ma carte bleue, je pouvais payer mes déplacements moi-même, tu vois, je dépendais plus de mes parents. Et puis je suis allé sur ces premières Coupes du Monde où il y a eu la première où je suis allé à Aruba. Enfin, c'était okay. Pas la première, c'est la deuxième, je crois. Où j'ai gagné un slalom.
Ouais.
Devant Björn Dunkerbeck, il gagnait tout à cette époque-là, il gagnait toutes les manches, toutes les épreuves, tout. Il n'y avait jamais personne qui arrivait à le battre, et moi je suis arrivé, et sur un slalom, je l'ai battu, toi. Donc, bon, il est tombé à une bouée, toi.
Ouais.
Donc, il est tombé à l'avant-dernière bouée, et moi j'étais deuxième, parce que je marchais bien dans ce type de conditions-là. Et puis, il y a les vidéos d'ailleurs qui traînent sur YouTube, je les ai retrouvées. Et puis, j'ai réussi à finir les deux derniers jibes pour aller à la ligne d'arrivée. Il est arrivé juste derrière moi parce qu'il m'a rattrapé. Et j'ai gagné le slalom et je suis arrivé sur la plage. Déjà, tous les Français qui étaient sur la Coupe du Monde depuis des années, comme Robert Territeo, Raphaël Salle, Fabien Pendel, ouais. Tous les gens comme ça. Patrice Belbeoc, ils étaient comme des fous parce que eux, ils se battaient depuis des années pour essayer de faire le mieux possible. Ils n'avaient jamais gagné un slalom devant Björn. Et moi, je suis arrivé, j'ai gagné un slalom, toi. Donc, pour moi, c'était énorme. Donc après, c'est vrai que j'ai continué. Cette année-là, c'était 92. Ça. J'ai dû faire 3 ou 4 épreuves cette année-là. Les autres épreuves, j'étais difficilement dans les 20 premiers, toi. Donc c'était pour moi, c'était super difficile. Et puis après, en 94, j'ai vraiment commencé tout le circuit.
Ouais.
En vague aussi, parce que c'était difficile à cette époque-là, parce qu'il y avait un tel engouement dans le windsurf qu'il y avait des listes d'attente pour aller sur les épreuves. Toi, c'était limité à 64 coureurs pour les tableaux d'élimination. Tu pouvais pas faire plus, toi. Tu faisais 8,
ouais.
8 de 8. Donc, tu pouvais pas en mettre un neuvième quelque part. Ça passait pas. Donc, il fallait avoir des listes, fallait avoir des wildcards et faire un classement pour pouvoir rentrer sur les prochaines épreuves. Donc en 94, j'ai réussi à avoir des places sur toutes les épreuves et j'ai commencé là. C'est vraiment les années où j'ai commencé à faire tout le circuit Coupe du Monde. Bon, on avait 15 ou 20 épreuves à cette époque-là dans l'année.
Ouais.
Donc c'était énorme, c'était que des déplacements. Et les premières années, c'était dur. Et je me rappelle une année en Hollande, c'était ma maman qui m'avait emmené et je marchais pas, c'était super dur et je me suis dit je vais arrêter, quoi. Ça sert à rien de continuer, quoi. Je voyais même pas. Je me suis dit, le niveau est trop fort, quoi.
Ouais.
Et puis j'ai continué, et puis quelques années après, ça a payé. Je me suis retrouvé comme ça en clignant des yeux, quasiment. J'étais dans les 3 meilleurs mondiaux, quoi.
Ouais. Il y a pas un déclic psychologique, technologique.
Je pense que non. Il peut y avoir un déclic psychologique, oui, parce que tu peux avoir un blocage mental où tu te dis les autres sont meilleurs.
Ouais.
Et je pense que le déclic, c'est que j'ai commencé à vraiment, je me suis beaucoup entraîné.
Ouais.
J'ai passé des heures de navigation. Hein, je crois que je notais tout à l'époque. Et il me semble que
j'avais un petit carnet d'entraînement où tu notais tout.
J'avais plusieurs. Je les ai encore. Je continue d'ailleurs, mais moi je note plus tous les jours que je navigue parce que maintenant je fais beaucoup de choses. Mais je crois que c'était 305 ou 315 jours de navigation par an, de plus d'une demi-heure. Hein.
Donc
c'est énorme sur une année, tu vois.
C'est
vraiment énorme. Donc et après j'allais 3-4 mois à Hawaï en deux sessions, tu vois, pour m'entraîner. Donc je faisais octobre-novembre et puis mars-avril. Ou février-mars.
C'était la Mecque un peu
déjà. C'était la Mecque, tout le monde allait s'entraîner là-bas.
Ouais.
Il y avait les bureaux de développement qui étaient là-bas de mes partenaires. Donc je crois que c'est ça vraiment qui m'a fait le déclic parce que ça m'avait vraiment fait beaucoup naviguer.
Ouais.
J'ai beaucoup navigué en vague aussi et ça m'a fait progresser carrément, quoi.
Ouais.
Vraiment, ça m'a vraiment fait progresser.
Puis j'imagine aussi le faire avec les meilleurs mondiaux.
Je suis rentré dans le team Nell Pride où je suis encore. C'était en 97, tu vois.
Ils sont fidèles.
Donc ça fait longtemps, ça fait hyper longtemps. Ouais. Et j'ai été aidé, je me suis entraîné avec les meilleurs qui étaient dans l'équipe à cette époque-là, notamment Patrice Belbeoc, un Breton,
okay.
qui a été champion du monde de vague et qui m'a un peu pris sous son aile. J'ai commencé à développer les voiles Nell Pride avec lui et j'ai tout appris dans ces années-là. Enfin, le début de mon apprentissage de développeur, de metteur au point.
Ouais.
Et ça m'a énormément servi, quoi.
Ok. Et l'école dans tout ça?
Et l'école.
T'es comment, Antoine, à l'école?
Bah, l'école, moi, tu sais que j'ai commencé tard, hein, parce que j'ai commencé en 92. Donc, en 92, j'avais 20 ans.
Ouais.
Tu vois, donc, maintenant, un jeune de 20 ans qui commence un sport, c'est presque un peu tard.
Ouais, ouais, c'est clair.
Donc, je me suis retrouvé avec des gars qui étaient déjà sur le circuit, qui avaient 3-4 ans de plus que moi, qui avaient déjà commencé à 16 ans. Ouais. Donc, ils avaient déjà quasiment 5 ans de Coupe du Monde dans les pattes. Et moi, je suis arrivé là, toi. Donc, ouais. Je suis arrivé tard parce que justement, j'ai suivi le cursus bac.
Ouais.
J'ai pas passé parce que cette année-là, je me suis retrouvé bloqué dans un aéroport après Aruba où j'avais gagné un slalom.
Ouais.
Et puis j'avais les épreuves du bac le lendemain et j'étais bloqué parce qu'ils avaient bloqué mes planches. À l'époque, ils me demandaient 6000 euros pour d'excédent de bagages.
Ok. Ah waouh. Wow,
je les avais pas, donc j'ai appelé mon père en PCV, je me rappelle et tout. Il m'a dit ouais, laisse tomber, prends un autre vol et tout. Et puis j'ai pas passé mes épreuves de bac, toi. J'ai passé le sport. J'ai passé de natation avec les tiges, j'ai eu 17,5, 18,5. Mais bon, j'avais fait une année où j'avais pas été trop au bahut.
Ouais.
Donc, ma mère dit toujours que j'aurais eu le bac, mais ça aurait été vraiment exceptionnel, je pense.
Ok. T'aimais pas trop l'école?
J'aimais pas du tout l'école. Donc, ouais. Moi, j'avais la chance aussi que mes parents avaient deux magasins de planches, tu vois, en ouais. parallèle de leur boulot. Donc, moi, je me voyais travailler au magasin. Ouais. Je voulais pas faire d'études après le bac.
Vraiment. Ouais, tu voulais être dans ta passion, en fait.
C'est juste que je voulais pas faire d'études. J'aimais pas l'école.
Ouais. Donc, mais c'est dingue le nombre de champions, notamment dès qu'il y a une dimension un peu artistique, créative, ou de liberté, tu vois, à quel point tu peux le retrouver. Tu vois, j'ai un souvenir de Edgar Gropion qui me dit que c'était le cancre, tu vois, complet. Enfin, il y en a plein, quoi. La liste est longue pour c'est pour qui.
Non, moi j'étais toujours à la limite, tu vois.
Ouais.
Donc j'arrivais toujours à passer à la limite, tu vois, toujours limite. Mais vraiment, j'étais pas bien, quoi. J'avais des potes, mais c'est toi, j'étais mieux à faire ma planche dans mes entraînements. C'était différent. J'avais d'autres amis du sport, toi, des compétitions d'autres endroits en France, toi.
Ouais.
Pas qui vivaient forcément à La Rochelle ou l'île de Ré, mais je sais pas, j'ai pas aimé ça, j'aimais pas ça, toi.
Ouais, besoin de bouger. Et qu'est-ce que tu dis, du coup, à ton fils quand il...
Bah, j'ai un peu cette appréhension-là. Ça a été hyper dur quand on l'a laissé à l'école, parce que l'école maintenant c'est obligatoire à 3 ans. Toi, il a 6 ans, mon fils. Hein,
ouais.
J'ai des jeunes enfants, moi. J'en ai un de un an et un mois maintenant.
Ok.
Donc mon petit Alani, j'avais tellement mal au cœur de le laisser à l'école, mais j'avais l'impression de me voir.
Ouais.
Mais j'essayais de pas lui transmettre, toi, parce que vraiment je veux pas qu'il ait cette sensation-là ou de mal-être.
Ouais.
De ce que j'ai ressenti. Après, il est à l'école sur l'île de Ré, donc c'est une petite école à la Couarde qui est vraiment géniale et qui est très familiale. Mmh. Donc ça va être complètement différent, toi. Moi, j'étais à l'école à La Rochelle.
Ouais, donc.
Une école normale. Hein,
Ouais, bien sûr.
Là, c'est plus ambiance, on va pas dire vacances. Parce que s'ils écoutent le podcast, après, mais ils travaillent, toi, ils travaillent normalement, mais c'est plus familial. Tu sors de l'école, il est 4h30, tu peux aller à la plage, tu rencontres
les profs pendant que tu vas surfer, quoi, limite.
Ouais, c'est quasiment ça. Et puis les copains, ils vont à la plage, ils font du surf, ils font de la planche, ils font du vélo, ils vont au skatepark, ils vont au parc. Tu vois, c'est plus amical, quoi, on va dire.
Ouais, ouais, c'est complètement différent. Et il y a question qui n'a rien à voir, mais il y a un collège et lycée sur l'île de Ré. Tu peux faire ta scolarité jusqu'à 18 ans?
Non, alors il y a un collège.
Ok.
Avec justement, il y a quelques années, ils ont créé une classe glisse.
Ok.
Dont je suis le parrain. Où ils ont sélectionné quelques des élèves pour aller dans cette classe-là, qui ont comme activité une ou deux fois par semaine, ils font surf ou planche.
Ok, génial.
Selon les conditions, toi, quasiment toute l'année. Il y a un petit break durant l'hiver où il fait froid, et ça, je trouve ça génial. Parce que ils essayent vraiment de s'impliquer dans sur l'île de Ré, dans la mer. On est au rythme de vie des gens. On n'est pas au milieu de l'Atlantique, mais on est en mer. On est en pleine mer par rapport à la côte, enfin à la Rochelle ou à la côte, quoi. Donc ils ont essayé de faire ça et ça marche super bien. Okay. Ça marche vraiment bien. Il y a des jeunes qui continuent, qui sont en sport-études maintenant à La Rochelle et qui sont inscrits au Pôle France et qui sont notamment Pierre Schmitt qui est avec moi sur le projet Zephyr, qui est en préparation olympique, pas pour Paris 2024.
Il est très jeune encore, il a
16 ans. Ouais. Donc pour ceux d'après. Donc c'est vraiment génial d'avoir monté cette classe. Au collège de Saint-Martin.
C'est important pour toi de redonner aux jeunes, justement, tu vois, t'as dit que ça avait été dur par moment enfin, que t'avais eu des moments un petit peu plus difficiles parce qu'effectivement, beaucoup de déplacements, c'est un rythme de vie très cher et puis pas forcément de victoire et peu de médiatisation. C'est important pour toi, ouais, de dire à ces gamins qu'il y a une autre voie, qu'il n'y a pas que l'école, qu'aujourd'hui, ils peuvent faire des films, qu'il y a les réseaux sociaux, il y a les compètes, il y a beaucoup plus de façon de s'en sortir. Il y a plus de modèles aussi, un peu comme toi. Tu vois, tu as alterné entre les records, les compètes. Maintenant, tu as essayé de les faire project. D'autres ont choisi de faire des films, tu vois, ou d'être beaucoup plus sur de la création de contenu. Mais t'en as fait aussi. Mais c'est important pour toi, ouais, de leur dire qu'il y a plusieurs voies possibles et qu'ils peuvent vivre de leur passion à 100%.
Bah oui, tu peux vivre de ta passion. Après, si moi j'avais eu les réseaux sociaux à l'âge de 20 ans, 25 ans, j'aurais explosé niveau médiatique, je pense, parce que bah, je suis sportif français le plus titré, hein, tu le sais.
Ah, bien sûr.
Et je fais un sport qui est hyper précieux, qui est naturel, qui est noble. Ouais. Donc c'est top. Après, il faut quand même se méfier un peu des réseaux sociaux, toi. Je sais pas si moi je le vois comme ça parce que je suis un peu plus vieux, je suis un peu plus assis sur ma chaise, mais il y a beaucoup de rêves dans les réseaux sociaux, tu vois.
Bien sûr.
Donc
ça tombe pas comme ça, quoi.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de mensonges, il y a pas que de la vérité. Donc il faut vraiment quand même rester serein sur tout ce qu'on voit. Bon, niveau sportif, t'as quand même moins de mensonges, mais t'as beaucoup de choses qui sont, il faut les regarder vite fait, quoi. Toi, c'est ouais. Après, bon, moi, j'essaye de.
Il y a que ce qu'on veut nous montrer, quoi.
Ouais, voilà. Moi, j'essaye de faire vivre mes réseaux sociaux vraiment au jour le jour. J'essaye pas de mentir. Toi, je peux rester une semaine sans rien poster, ni de story, ni rien sur les réseaux parce que justement, je suis à la maison et puis je travaille à mon école de voile ou je navigue pas ou des choses comme ça. Bon, je devrais plus l'alimenter, c'est clair. Mais je vois pas l'intérêt de vendre du faux alors que voilà, toi, ou poster. Ouais. Mais bon, c'est sûr que les réseaux sociaux, moi je trouve ça, au final je trouve ça génial, ouais, parce que ça permet de montrer je vais me contredire, mais la réalité des
de ceux qui veulent en tout cas me la montrer, ouais.
Voilà, toi, c'est ça. Donc si moi tu regardes mes réseaux sociaux, il y a pas de mensonge, toi, tu vois que de la réalité. Ouais. Bon, je poste pas vraiment ce que je fais à côté parce que je fais beaucoup de choses, toi. J'ai construit ma maison pendant 3 hivers.
Ouais, j'ai envie que tu m'en racontes, d'ailleurs.
J'ai quasiment rien posté sur ce que je faisais. J'ai fait tout moi-même de mes mains avec mon père. Donc sur mes réseaux sociaux, tu peux chercher. Il y a pas de montage de parpaing, il y a pas de posage de tuiles, il y a pas de charpente, il y a pas de placo plate, il y a pas d'électricité, il y a pas de tout ça, toi. Ma femme Paola, elle communique plus. Elle a plus publié que moi sur le montage de la maison parce qu'elle était fière de ça et tout. Ouais. Mais moi, je vais pas montrer ça. Pourquoi le faire, toi? J'ai pas envie de dire, ben, moi, je suis capable de faire ça, tu vois, je le fais parce que, voilà, je voulais le faire, et puis,
Ben, je l'avais appris, tu vois, en faisant mes recherches et tout, et j'avais vu ça, et j'avais trouvé ça super original, et je me suis demandé, tiens, c'est quoi pourquoi t'as choisi déjà de la construire toi-même? Tu vois, est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'était dû à une contrainte? Ou c'était pour avoir la maison de tes rêves? D'où c'est venu un petit peu ce projet, cette envie? T'as toujours bricolé, j'imagine.
Ouais, bah ça c'est venu de mon père en fait, parce que mon père est très habile de ses mains, tu vois. Donc il a tout construit, toutes ses maisons,
okay.
tous ses magasins. Il a eu pas mal de. Enfin, il a eu 3 magasins qui se sont déplacés, tu vois, dans la Rochelle, parce que bah, les zones d'activité ça bougeait. Donc il a toujours tout construit.
Okay.
Il a construit ses maisons. Il a rénové une vieille maison où on a habité à la Rochelle. Une vieille ferme là qui date de l'an 1000, toi. Donc wow. Il a mis 10 ans pour refaire cette vieille bâtisse. Donc on a construit des choses pour moi aussi, des bâtiments, un petit local commercial, des choses, toi, pour louer. Moi j'ai toujours bricolé avec lui.
Ouais.
Bon, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai pas pu travailler tout le temps avec lui comme il aurait voulu. Mmh.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mais comme j'aurais voulu. Mais quand je revenais l'hiver, bah voilà, je montais des parpaings, je faisais du placo, je faisais de la tuile, je faisais de la charpente, toi.
Ouais.
J'allais tout le temps bosser avec lui. Et puis moi, je me suis toujours dit, bah c'est top parce que j'ai ma maison, mais putain, j'aurais vraiment voulu construire une maison, quoi.
Ouais.
Toi. Et puis moi, j'ai acheté ma maison, ma première maison en 2010, je crois, sur l'île de Ré. Bon, on a fait un agrandissement quand même avec mon père, toi. Donc, on n'a pas fait la maison. Mais après ces années-là, je me suis toujours dit, bah, c'est dommage. Moi, j'aurais bien voulu construire ma maison et tout aussi, toi. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'acheter un terrain sur l'île de Ré à côté de là où j'habitais. Mmh. Et puis, c'est parti de là, toi. Et puis, à 46 ou 47 ans, je faisais ma maison. Bah, je commençais à faire ma maison. Bon, ça a été super dur, ça a été très dur physiquement.
Parce que tu t'entraînes, enfin, tu, ces 3 années-là, tu concourais toujours.
C'était l'année, on a commencé hiver 2000, on a commencé hiver 2019.
Ouais.
Et puis, moi, on travaillait que l'hiver.
Ok.
Parce que, moi, j'ai mes saisons à faire de Coupe du Monde. J'ai la saison aussi à mon école de voile, toi, qui commence. Ouais. Je commence à monter début juin. C'est énormément de travail parce que je monte tout sur la plage.
Ouais.
Toi, c'est une cabane que je monte. C'est une grosse école avec une trentaine de 30-40 bateaux, sans compter les planches, les paddles, les kayaks, tout.
Ouais.
Toi, c'est une très grosse infrastructure. Et puis donc l'été, je peux pas y travailler à la maison. Je suis là-bas tous les jours à l'école de voile, toi, c'est
ouais.
Moi qui tiens ça avec ma femme. C'était l'école de voile de mes parents. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc au final, le Covid, tout le monde a craché dessus, mais moi, il a été super bienvenu.
Ouais.
Parce que j'ai travaillé tous les jours à la maison, toi. Donc c'était parfait. Toutes mes compétitions ont été annulées, donc j'ai pu travailler que à la maison. Et puis 2021, on a eu très peu de compètes aussi.
Ouais,
donc j'ai fait que travailler à la maison. J'ai fait très peu d'entraînement sur l'eau, très peu d'entraînement physique. Donc j'ai quasiment changé de métier.
Ouais.
Sans vraiment le dire. Au final, ça m'a quasiment servi, toi, ce Covid. Ça m'a pas sauvé, mais ça m'a permis de finir cette maison en 3 ans. Enfin, 3 hivers. Je dis toujours 3 hivers parce que c'est pas 3 ans complets. Hein.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et puis, maintenant, on a emménagé en 2000. Quand est-ce qu'on a emménagé? On a emménagé en mai 2021.
Bravo.
Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on est dedans. Il y a encore un petit peu à finir.
Mais on avance
tout doucement.
Ouais.
Mais maintenant c'est fait, donc et puis on est super bien, et donc ça a été très lourd mentalement aussi, parce que je m'entraînais plus, tu vois.
Ouais.
Donc repartir sur les compètes, c'était chaud.
C'est une question que je voulais te poser, ouais, parce que justement pendant cette pause, tu vois, avec ton palmarès, t'as tout gagné. Tu commences du coup une école de voile, tu construis ta maison. Je sais pas à quel moment le Zephyr Project s'insère dans tout ça, mais beaucoup auraient pu penser que tu tournerais la page en te disant bon, voilà, ouais, il y a eu une petite pause un peu forcée, j'ai pas envie de me remettre. Qu'est-ce qui t'a redonné un peu la flamme? T'as l'air de dire que c'était dur, donc ça t'a manqué, quoi, j'imagine.
Ça m'a manqué. Moi, ça faisait quelques années que je voulais arrêter la Coupe du Monde déjà.
Ok.
On va dire plus ou moins 2 ans. Il y a eu le petit problème financier aussi.
Ok.
C'est clair que moi, si j'arrête la Coupe du Monde, j'ai plus de partenaire. Ouais. Donc j'ai plus de rentrée d'argent. J'avais la maison, donc c'est quand même assez chaud. Je me suis dit en 2020 j'avais pas tous mes partenaires planchent, ils m'ont carrément lâché, toi, ils m'ont pas re-signé.
Ouais.
Parce que j'étais en fin de contrat en 2019 et puis tu mets toujours 2-3 mois avant de re-signer, toi, donc on est arrivé mars, on allait signer et puis le Covid est arrivé, donc ils ont dit hop, on attend. Donc on s'est dit on attend 1 mois, 2 mois, quoi.
Puis ouais, final, comme tout le monde.
Au mois de juillet, ils ont voulu me signer pour rien, juste le matériel. Donc j'ai dit non, moi je veux pas, parce que je voulais pas signer pour rien.
Ouais. Voilà,
parce que sinon, si je signe pour rien l'année prochaine, bah pareil, on re-signe pour rien, quoi.
Ouais. Voilà,
donc j'avais pas de partenaire. J'ai juste eu la chance d'avoir tous mes partenaires extra planche comme l'île de Ré, la Charente-Maritime, les campings de l'Atlantique qui m'ont re-signé. Et puis d'autres, on va pas tous les citer, mais qui ont continué à me sponsoriser, enfin à me suivre pendant ces années-là. Bon, j'ai fait des choses ces années-là, toi, j'ai fait des longues distances, j'ai fait de la promotion aussi, toi, j'ai quand même travaillé, puis on a commencé le projet Zephyr.
Ouais.
Donc on a eu pas mal de parus sur ce projet Zephyr cette année-là, donc pour mes partenaires, c'était du bonus quand même, c'était bien.
Ouais, complètement.
Et puis 2021, j'ai re-signé avec mes partenaires Pride et JP pour une année de Coupe du Monde. Et puis on a eu 2 épreuves de Coupe du Monde, donc une en Israël où je suis arrivé très peu entraîné et je suis arrivé là-bas, je me battais dans les 3 premiers, toi, donc j'étais là, j'ai dit putain mais c'est pas possible avec le que j'ai fait. C'était fin juin, je m'étais fait quasiment 1 mois de montage de cabane et de trous dans le sable avec la pelle, toi. Donc je suis arrivé là-bas, tu vois l'état du gars. Je finis 5e parce que j'ai fait 2-3 conneries, mais enfin 2-3 bêtises sur des manches, des petites erreurs. Mais finir, je pensais jamais finir 5e là-bas, toi.
Ouais.
Après, on a eu une Coupe du Monde à Marignane dans le sud de la France où il n'y a pas eu de vent, toi. Bon, c'était dommage. Et puis après, on a eu le défi Superstar à Gruissant, je sais pas si tu connais.
Ouais, de nom, ouais.
Donc il y avait tous les coureurs de la Coupe du Monde qui étaient là. Et j'ai fait 2e au défi Superstar. Non, j'ai gagné le défi Superstar.
Ok.
Enfin, j'ai gagné ce défi Superstar.
Il y a trop de titres.
Donc, c'était énorme, quoi. C'était vraiment énorme.
Ouais.
Donc, je pense que j'ai eu des bonnes années ces années-là encore. Et puis voilà. Pour moi, dans ma tête, je voulais quitter la Coupe du Monde parce que c'est clair qu'après 25 titres, si t'es le patron d'une boîte et que tu sponsorises Anton Albo, qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'envoyer sur les Coupes du Monde qui gagne pas ou tu préfères faire de la promotion avec lui, toi?
Ouais.
Donc, moi, si je suis patron, Anton Albo, je le garde. Va faire le défi Win, va faire une exhibition là-bas, va faire une traversée là-bas, va faire des photos avec ces gens-là sur un meeting, naviguer avec lui, faire ci, faire ça. Faut qu'il m'utilise à faire de la promotion, toi.
Ouais,
tu peux
sûr.
Pas, Anton Albo, il va pas être éternel sur les Coupes du Monde.
C'est, j'imagine,
tu, le
ça
gars,
fait pas
tu
de
l'envoies
sens.
Au casse-pipe, quoi. C'est clair.
Ouais.
Voilà, quoi. Donc, pour moi, c'était ça. Et ils l'ont pas vu comme ça, toi. Ils ont préféré, ils avaient personne derrière aussi, toi, qui pouvait prétendre un podium ou des choses comme ça. Donc, je le comprends aussi, toi, de continuer à m'envoyer sur les Coupes du Monde pour essayer d'avoir des résultats, pour essayer de vendre du matériel, pour montrer que le matériel est bon.
Ouais,
donc,
ouais.
Maintenant, ils ont pris quelques nouveaux riders qui peuvent percer. Donc l'année prochaine on va fonctionner comme ça. L'année prochaine je vais au Japon en novembre. Ce sera ma dernière épreuve de Coupe du Monde.
Officiellement.
Félicitations. Et l'année prochaine on va plus travailler sur des épreuves promotionnelles ou faire de la promotion et le projet Zephyr. Si on a des Coupes du Monde en France, je pense que je les ferai. Toi, si on a une Coupe du Monde en France, je la ferai parce que
C'est
par principe, ouais. Et puis voilà, mais je vais avoir plus de temps de m'entraîner. Déjà là j'ai bien repris l'entraînement depuis septembre, toi, ça m'a fait du bien de renaviguer. j'ai plus la maison dans la tête. Parce que avant c'est difficile, toi, quand j'allais naviguer.
T'as pas terminé ta charpente.
Ben oui, c'est ça. Je me disais, je partais naviguer. C'était pas une bonne session où le vent tombait. Je me dis, putain, si j'étais resté à la maison, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, toi. Ouais. C'était hyper dur. Dans le mental, c'était dur. C'était difficile.
Ah ouais, ça fait beaucoup de charge mentale en fait.
Ah oui, c'est ça. Et puis en plus, on avait Alani, Paola, elle est tombée enceinte encore. On a eu un petit garçon il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Donc faut s'en occuper quoi.
Ouais, bien sûr. Vous semblez très proches tous les deux. C'est important justement dans ces moments durs d'avoir quelqu'un qui soutient, qui comprend ce que tu fais, tu vois.
Avec Paola.
Ouais.
Bah, pour moi, oui. Parce que je pense que, pour moi, un couple, ça doit être ensemble tout le temps. C'est pas deux personnes qui travaillent dans leur coin et qui se retrouvent le soir pour dîner, se coucher, quoi. Toi, donc, et puis on a la chance de, Paola travaille avec moi à l'école de voile maintenant, donc c'est pas mal de taf, l'été, juin, juillet, août.
Ouais, c'est vraiment ta partenaire de vie.
Ouais, c'est ça. Et puis, il y a pas mal de préparation pour l'école de voile. Il y a énormément de papiers. Tu sais, on est en France, donc il y a pas mal de paperasse à faire. Il y a de la recherche de moniteurs. Donc, il y a beaucoup de travail. Et puis, elle m'aide aussi, moi, pour ma carrière aussi, toi. Donc, moi aussi, à côté, j'ai aussi pas mal de choses à faire. Donc, on bosse ensemble et puis on éduque nos enfants ensemble, quoi. Donc, On a une vie idéale. C'est clair que vivre sur l'île de Ré, dans une belle maison, à une minute de la plage, avec la petite école de village, c'est génial, quoi. À deux pas de La Rochelle, tu sais, on a une demi-heure de La Rochelle, c'est hyper facile d'aller au resto, d'aller au ciné ou d'aller voir des amis à La Rochelle. C'est avec tout ce que tu vois, ce qui se passe dans les aux journaux, aux news et tout, ça fait un petit peu peur, quoi. On est un petit peu à part quand même, hein. Sur l'île de Ré, c'est quand même super privilégié.
Ouais, profitez-en.
Mais ouais.
C'est vrai que ça donne envie de rejoindre. Et moi, je connais un peu plus Belle-Île, tu vois. Bon, ouais. c'est un autre endroit et c'est
plus... c'est un peu plus coupé du monde, quoi.
Ouais, c'est pareil, c'est aussi coupé et y a une atmosphère aussi un peu particulière quand même. Bon, il y a pas le pont, quoi. Donc
L'île de Ré, c'est moi j'aime bien parce que t'as plusieurs saisons, toi. T'as vraiment la saison d'hiver où il y a pas grand monde, toi. Janvier, février, c'est des mois qui sont quand même assez durs. T'as quand même pas mal de monde qui vivent sur l'île de Ré. Il y en a qui travaillent à La Rochelle. T'as des Rochelais qui travaillent sur l'île de Ré. Donc t'as quand même un mouvement de voitures qui est quand même carrément plus intense qu'avant.
Ouais.
Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon permis, j'allais naviguer sur l'île de Ré, mais d'un bout à l'autre, je croisais deux voitures, toi.
Donc, ah ouais.
maintenant, t'as du monde sur l'île de Ré, toi.
Ouais.
Et puis après, t'as les saisons de vacances, t'as les saisons de vacances d'hiver où t'as les gens qui viennent, qui sont couverts, qui vont pas forcément à la plage ou qui vont marcher à la plage. Mmh. Puis après, t'as l'été où là, c'est la folie sur les plages.
Ouais.
Tout le monde est en maillot de bain, en short et tout.
Et toi, tu bosses quoi?
moi, je bosse, mais au final, c'est travailler, mais bon, je suis à la plage quand même, tu vois. Donc, on fait des longues journées, mais bon, je suis pas dans un bureau. Et puis, tu revois des familles qui sont tes amis, qui reviennent chaque année avec des nouveautés, des enfants, des petits-enfants. C'est top, quoi. C'est vraiment bien, quoi.
Ouais, mais j'imagine, c'est pour ça que tu fais ça aussi. C'est pour cette aventure humaine de voir des enfants grandir.
Ah oui, puis c'est pour le partage revenir. Aussi de la voile, parce que... moi, je pense qu'il faut que les gens ils aillent sur l'eau, que ce soit en surf, en planche, en kite, en paddle, en bateau, en ski nautique, n'importe. Faut toucher à l'eau. T'as beaucoup de gens qui vivent dans les villes françaises qui vont jamais à la mer. Hein. Donc ça c'est quand même malheureux. Donc parce que si tu regardes la côte française. On est quand même un pays européen qui a énormément de côtes françaises. Donc, il faut aller mettre les pieds dans l'eau, aller se baigner, quoi.
C'est clair. Mais on sent vraiment la passion et tu vois le cœur qui parle quand tu racontes ça. Moi, je me suis demandé à quoi il ressemble l'Antoine compétiteur. On entend dans une des vidéos qu'il y a sur toi, alors qui date il y a plusieurs années, mais ton père qui dit que t'as toujours été meilleur quand t'étais dos au mur et que tu voulais, t'étais un grand compétiteur dans les moments un peu plus durs ou quand c'était plus compliqué. Là, moi, je te vois tout calme, tout serein. Bon, c'est peut-être un peu la fin de journée aussi. Mais à quoi il ressemble l'Antoine compétiteur qui a besoin de se motiver pour un titre en plus ou pour un record?
Ben ouais, mais on me l'a souvent dit, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis quand même carrément plus agressif quand je suis sur ma planche, tu vois. mais moi, j'ai un tempérament qui est quand même assez calme. Tu vois, je crois que je le tiens de ma mère pas mal. Et j'ai du mal à m'inquiéter déjà.
Ouais.
Tu vois, et je suis toujours assez, je sais pas comment dire, mais conscient de ce qui peut arriver ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que dans mes meilleures années où j'étais vraiment le meilleur, j'étais très agressif sur l'eau.
Okay.
Tu vois, agressif. J'étais pas agressif, mais j'étais agressif dans ma méthode, parce que il faut être agressif sans vraiment le montrer, toi.
Ouais.
Parce que si tu montres vraiment de l'agressivité comme ça, tu vas recevoir de l'agressivité.
Ouais.
Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même cacher un petit peu. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à bien faire, je pense, à vraiment me placer, à être intimidant, toi. Donc et puis j'ai réussi à faire la part des choses où au début, quand tu voyais tes tableaux d'élimination, toi, où on est 8 par 8, puis c'est les 4 premiers qui passent au tour suivant, en quart de finale, en demi-finale, en finale. Au début, c'est vrai que tu te disais oh putain, je suis avec un tel, oh là 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 là. Toi, déjà là, tu pars mal, parce que tu te dis, ils sont meilleurs que moi. Et à un moment donné, c'était les autres qui se disaient, putain, il y a Albo qui est dans mon hit, merde. c'est ça, tu vois. C'est pas parce que le gars, il est américain qu'il est meilleur.
Ouais. Tu vois. T'as déjà discuté avec un plus jeune français, qui aurait pu te dire, que c'est presque, tu vois, rageant d'être un petit jeune, parce que Antoine, il laisse pas la place, tu vois, on t'a déjà fait ce genre de remarque où, tu vois,
Non, on me l'a pas fait, mais je l'ai ressenti, ou mes amis me l'ont dit, parce qu'ils l'ont entendu. Mais c'est clair que moi, j'ai 50 ans, et puis mes dernières années, je me suis battu avec des jeunes qui ont quasiment 20 ans de moins que moi.
Ouais.
Tu vois, donc c'est quand même énorme d'être à cet âge-là et d'être aussi performant.
Ça te fait chier qu'on te rappelle ton âge? Souvent, tu sais, quand on je me suis amusé, tu vois, à aller regarder sur Google, tu tapes Antoine Albo, tu mets, ok, je veux les derniers articles d'actualité, et puis ça, tu remontes chronologiquement. Et c'est con, mais je pense un titre sur toi dans la presse, ça fait une référence à ton âge, quoi. Et,
ouais, je sais.
Genre, tu sais, à un moment donné, tu gagnes, quoi. Enfin,
moi, ça m'énerve pas, mais ça énerve ma femme, ouais. Ça énerve Paola. Okay. Ouais. Elle est à dire toujours, mais pourquoi ils disent l'âge et tout? Oh là 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 là. Non, moi, j'ai pas de complexe d'âge, tu vois. Je me dis que, au final, chaque année est différente.
Ouais.
Et puis, je pourrais regretter si vraiment j'avais pas fait quelque chose que j'aurais voulu faire dans mes années précédentes. Mais quand je vois la vie que j'ai fait, comment faire mieux, quoi? C'est vraiment, c'est difficile de. Je pense pas que j'ai raté quelque chose ou que j'aurais. Bien sûr, on peut toujours faire plus. Mais c'est comme ça, hein. Après, si tu regardes dans tous les sports, surtout les sports médiatiques, on va citer le foot, t'as énormément de footeux qui ont 35, 37 ans, 40 ans,
ouais.
Et qui sont quasiment à leur meilleur niveau mondial.
Ouais, ouais.
Tu vois, donc, et ça, c'est juste une envie, toi, c'est parce que l'âge moyen sportif augmente chaque année. On est mieux préparé, on est mieux soigné, on se nourrit mieux.
Plus de connaissances, ouais.
Avant, un footeux, à 30 ans, il avait fini sa carrière. Bon, eux, ils ont aussi un petit peu le problème d'argent, toi. C'est clair que quand t'as tant de millions à la banque, tu peux perdre la motivation, toi. Ouais. Moi, la motivation, je l'ai jamais perdue parce que j'ai pas gagné des louis d'or, toi, donc ou des lingots. Donc c'est clair que bah il y a des années, c'est vrai que j'aurais pu arrêter, mais bon, bah t'as plus de rentrée d'argent, t'as plus rien. Ouais. Donc les price money, t'as quasiment pas grand chose en planche. Donc c'est tout sur les partenaires, toi. Donc donc la motivation, elle est là, elle est, c'est mon métier, il faut que je continue, toi. Et puis tu regardes dans le marathon, t'as énormément de gars qui courent qu'ont 50 ans hein, ou 45
ouais,
ans.
Ouais, bien sûr.
Et qui sont performants. Donc pourquoi, toi?
Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Et puis effectivement, il y a plein de sports où justement il y a pas d'âge limite. Puis moi j'aime beaucoup Jenny Longo aussi en cyclisme, ouais. Tu vois.
Bah là, elle a pas refait si un record rencontre... là ou non,
mais elle a gagné. Si, elle a gagné un truc en championnat,
je crois, championnat de France.
Ouais, c'est dingue. Alors là pour le coup le fait de pas laisser la place, ça je crois qu'elle a déjà dû l'entendre, mais
ouais, bah oui.
Vous connaissez un peu à tout hasard ou
Non, pas du tout.
OK, mais bon, tu t'imagines, la comparaison a déjà dû tomber une fois dans le cheveu sur la soupe. J'aimerais terminer sur le Zephyr Project, j'avais juste une dernière question. C'est quoi est-ce que il y a un élément de recette, tu vois, morphologiquement ou est-ce que t'avais un, comme disent les Anglais, un unfair advantage, tu vois, sur une board, que
pour
ce soit
pour moi,
ouais, pour toi, que ce soit, je sais pas, physiquement.
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as aussi tu le revois sur les photos, les vidéos, ouais. La morphologie du windsurfer a carrément
changé.
On va dire grossi, mais c'est pas grossi en gras, quoi, mais c'est épaissi, grandi, parce que c'est clair, moi quand j'ai commencé, bah j'étais freluqué, hein, j'avais 19-20 ans.
Ça, j'ai vu des photos.
J'étais grand, mais j'étais pas épais, toi. J'avais pas fini ma croissance. J'ai fini ma croissance à 24 ans, moi, toi, hyper tard.
Ouais.
Donc, si tu regardes la morphologie des autres riders, Björn Dunkerbeck, qui a tout dominé, ben, quand moi j'avais 20 ans, il était au sommet, il était grand, mais il était pas énorme, toi.
Ouais.
Tout le monde s'est épaissi. Il y a eu des nouveaux windsurfers qui sont arrivés, des grands gabarits, parce qu'à l'époque, il y avait Eric Thiemé, tu avais Nick Baker, l'anglais, qui était petit, trapu, mais petit. Toi, ils étaient forts. Ils étaient très agiles. Ils savaient super bien naviguer. Donc, ils étaient parmi les meilleurs mondiaux à cette époque-là. Et puis après, tu as cette nouvelle génération d'hommes qui est arrivée, de sportifs qui étaient plus grands en taille. Et puis après, je sais pas ce qui s'est passé, on a dû plus manger ou tout le monde s'est épaissi. Et puis à l'époque, je sais pas, moi les riders, je me rappelle plus mon poids, moi, mais je crois que je faisais 85 kilos,
okay.
Comme ça, toi, j'étais déjà lourd pour faire de la cire olympique, j'étais trop lourd. Et sur la Coupe du Monde, j'étais normal, toi. Et je pense que tous ces riders, ils faisaient 65-85 kilos. Puis tout d'un coup, tout le monde est arrivé à 90-100 kilos, quoi.
Ouais. Donc, avec des os lourds, des gros, voilà, beaucoup de muscles.
Parce que moi, j'étais champion du monde de freestyle, ouais. En 2001, toi. Donc, et puis à cette époque-là, je devais déjà faire 90 kilos, toi.
Ouais.
Plus même. Et j'étais pas avantagé du tout par rapport à Josh Stone, qui était le leader à l'époque, qui devait mesurer 1m68 pour à peine 70 kilos, toi. C'était lui le leader à l'époque, que j'ai battu cette année-là. J'étais carrément hors gabarit, toi. Et puis maintenant, toutes les disciplines se sont détachées. Et c'est vrai qu'en freestyle, t'as des petits, enfin des plus petits,
plus légers.
En vague aussi,
ouais.
T'as des exceptions, bien sûr. Et puis en slalom, en vitesse, bah t'as que du 1m85, 90, 100 kilos, quoi.
Ouais, bien sûr. Donc avec les disciplines, on voit des morphos anatomiques qui reviennent,
donc,
quoi.
Mais je crois que tout le monde s'est épaissi, c'est clair, quoi.
Ok. Mais du coup, je voulais parler rapidement du Zephyr Project. Alors aussi en fonction de ton temps. Moi, ce que j'ai compris, c'est que vous vouliez battre le record de vitesse absolue, notamment en foil. Le but, c'est d'utiliser toute ton expérience et toute la science, la donnée qu'on peut aller chercher. Vous avez fait énormément de tests pour de visualiser ton corps en 3D. Vous avez étudié tes anciennes voiles sur tes anciens records de vitesse que tu avais fait. Vous avez fait des boulons du travail en soufflerie à Magny-Cours, je crois, c'est ça, pour étudier l'aérodynamisme.
On a entre autres, on a été à Magny-Cours aussi.
Ok. Est-ce que tu peux nous... Donc, c'est un projet de dingue dans lequel il y a à la fois de la science, de la performance et beaucoup de technologie. D'où est venue la genèse du projet et quel est l'objectif, toi, avec tes mots, si j'ai mal résumé?
En fait, c'est Marc, ancien planchiste, ouais, qui avait travaillé dans les années 80, mais je m'en rappelle plus exactement, avec un voilier ITV à l'époque,
okay,
qui était pas mal dans la vitesse, avec Thierry Bielak, qui était, okay, un des leaders, un des champions du monde de vitesse à l'époque, qui, ouais, se battait avec Pascal Maca. Ils avaient travaillé sur une voile double profil. Une voile, oui, si c'était une voile double profil, pas asymétrique, mais double profil. Et puis, on a un ami en commun, Olivier Pontrouche, alias Pompon, qui lui était un ami de Thierry Bielak, qui était donc sur toutes les coupes du monde de vitesse, qui l'aidait, qui courait un peu. Et que, bah, moi, j'ai connu parce que, bah, j'étais aussi sur le circuit vitesse et coupe du monde et tout ça. Et puis un jour, Pompon m'a dit non, je connais un ingénieur qui aimerait faire un projet vitesse avec toi. Il s'appelle Marc Amerigo, il aimerait bien te rencontrer. Bon, des choses comme ça, j'en ai entendu des millions pendant ma carrière, toi.
Ouais, bien sûr.
Donc, bah, je lui dis bah oui, pourquoi pas, toi. Bien sûr, oui, toi.
Fais le job.
Sans vraiment y croire, toi. Mais bon, j'ai jamais craché sur personne. Donc, faut toujours écouter tout le monde. Et puis, c'est avéré que Marc, il est passé sur l'île de Ré pendant que j'étais sur mon chantier en train de faire ma maison, donc pas mal occupé. Et puis, il est resté tout l'après-midi. Donc, on a discuté. Il m'a exposé un petit peu son projet. Marc, il arrivait d'un projet vitesse avec Eric Baron en descente de VTT, VTT vitesse à Vars, là où vous avez battu le record du monde de vitesse avec Eric Baron. Et puis, il m'a dit, ben non, mais j'aimerais faire un projet vitesse. Regarde ce que j'ai fait déjà. J'aimerais qu'on fasse ça tous les deux. Ben, je dis, pourquoi pas, oui, on peut essayer, sans vraiment y croire, parce que c'est vrai que t'entends toujours des choses. Et puis, au final, voilà, ça s'est fait, on a continué à discuter, et puis on est parti sur ce projet-là.
Ouais.
Le nom de projet Zephyr est arrivé après. Depuis ce temps-là, c'était en plein Covid, hein. Donc, ouais, on a quand même réussi à aller en soufflerie, à faire des tests sur l'eau, j'ai même battu un record, je crois, à la Palme cet été-là, et puis on a avancé comme on pouvait. On a eu pas mal de contacts sur Facebook, LinkedIn, des gens qui ont vu le projet sur les réseaux qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer bénévolement, bien sûr,
ouais,
sur le projet. Donc, on a quand même pas mal de monde qui sont derrière avec nous. Maintenant, niveau financier, on n'a rien. Donc, on a fait un crowdfunding l'année dernière. On a réussi à avoir 30 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ce qui n'est pas des masses non plus, hein.
Ouais, c'est très peu.
Parce,
ouais,
qu'on a quand même, budgétisé 1,2 million, 1,3 million sur 3 ans, toi.
Ouais.
Ce qui n'est pas énorme non plus. C'est une somme, mais c'est pas énorme non plus. Et on voudrait battre le record du monde de vitesse à la voile, qui est de 120 km/h, qui a été fait par le bateau Sail Rocket. Donc, à la base, c'était vraiment un projet pure vitesse. Maintenant, on s'aperçoit que il faut quand même qu'on essaye d'évoluer dans l'air du temps, donc dans la protection de l'environnement, essayer de fabriquer avec des produits recyclables.
Ouais.
Là, on sent, c'est pour ça qu'on est ici au salon du Biomim Expo, pour se rapprocher un petit peu de savoir pourquoi un espadon peut aller à 120 km/h sous l'eau, par exemple,
ouais,
toi.
Ouais, ouais.
Alors que nous, avec un aileron ou un foil, on a toujours des problèmes de cavitation ou des choses comme ça quand on approche les 50 nœuds, toi. Donc on essaye de se rapprocher de la nature, d'utiliser des produits recyclés ou recyclables. Et puis on trouve que ça attire pas mal de monde. Ici au salon, on a pas mal de monde qui vient regarder le projet, et voilà. Et puis on veut faire le record en France aussi sur la commune, ouais, de la Palme, et puis on aimerait fabriquer en France aussi,
ouais,
tu vois. Donc c'est un projet qui est avant tout humain, avec une ressource naturelle qui est le vent. Et puis on aimerait faire évoluer ça sur des produits qui pourraient être utilisés par un windsurfer lambda, Ouais. Un surfeur qui va naviguer le week-end, qui a du mal à aller à 25 nœuds ou à 30 nœuds. On aimerait le faire aller à 35 nœuds, à 40 nœuds.
Ouais.
Pourquoi pas à 50 nœuds sur un run de vitesse. Donc voilà. Donc c'est un tout. C'est un super projet qui est très humain. Mmh. On a énormément de monde qui sont derrière, qui nous aident bénévolement selon leur temps libre ou des choses comme ça. Après, on n'a pas dit qu'on voulait faire le record sur un foil.
Ouais.
On veut essayer de.
Excuse-moi, je me suis trompé.
Ouais, on veut essayer de. C'est pas grave. On veut essayer de développer une planche qui va justement éliminer tous ces problèmes de traînée qu'on a actuellement. Mmh. Parce que là, ça fait pas mal d'années où on est quasiment bloqué à 50 nœuds.
Ouais.
Le matériel évolue très très peu en vitesse. Et puis maintenant, ce qui peut nous faire aller plus vite avec le matériel qu'on a actuellement, ça va être les conditions météorologiques. Si la mer est encore plus plate, on ira plus vite.
Ouais.
Si le vent est encore plus fort, on ira plus vite. Donc on aimerait justement aller à des vitesses 50 nœuds avec beaucoup moins de vent, avec 25 nœuds de vent, toi.
Okay.
Les bateaux, ils y arrivent très bien. Si tu vois sur le CLGP, ils sont à 50 nœuds avec, ouais. Avec 20 nœuds ou 25 nœuds de vent.
Ouais.
Donc pourquoi pas nous?
Ok. Bon, bah écoute, super projet. Du coup, j'imagine que si on veut vous aider, faut te contacter peut-être sur les réseaux ou te proposer de l'aide bénévolement. Et,
bah voilà, c'est
et
ça.
Et si vous êtes une entreprise et que c'est un projet qui vous intéresse, de battre ce record, que ce record soit français et fait avec beaucoup de valeur et d'humanité, on peut venir te voir, c'est ça?
Ben c'est ça, ouais, on est sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit moi avec mon Antoine Albo ou Marc avec Marc Amerigo, ou alors le projet Zéphyr.
Voilà.
On est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, on a tout ce qu'il faut pour communiquer, quoi.
Ben écoute, c'est pas vraiment du bois, mais ouais. je toucherai du bois ce soir pour toi et pour que vraiment vous puissiez mettre ce projet à vraiment aller jusqu'au bout, quoi, parce que ça serait vraiment terrible. Je vous souhaite tout le bon vent, hein, comme on dit
ouais,
par chez
merci,
vous.
Ouais.
Il y a une toute dernière question, c'est un petit peu comme un passage de flambeau olympique, c'est plutôt un passage de micro, c'est de savoir quel est le ou la prochaine invité que tu me recommandes d'aller interviewer pour parler un peu de performance sportive, mais ça peut être aussi de construction de maison ou d'éducation des enfants. Moi, j'aime bien aller voir les amis des amis parmi les athlètes. Est-ce qu'il y a, tu vois, un ou deux noms qui te passent par la tête de gens?
Bah, j'en ai, mais ils vont te faire, tu vas devoir te déplacer, voyager.
Je me bouge, j'ai pas peur.
Donc moi, j'ai deux trois sportifs que j'aime bien. J'aime bien Kelly Slater déjà.
Ok. Oui, il faut bouger. Ouais.
Ouais, je pense que c'est un athlète qui est, on est de la même année déjà.
Ouais.
Et puis il a pas mal de titres mondiaux. Bon, j'en ai plus que lui, mais il a été super performant. Il a encore gagné. Il a gagné une étape du Tour à 50 ans, tu vois.
Ouais. Vous êtes proche?
Non, je le connais un petit peu parce que je suis dans le Team Quick aussi. Il était dans le Team Quick à l'époque.
Ouais, ouais.
Je l'ai rencontré quelques fois. Et puis voilà, il y a Usain Bolt aussi.
Ok.
Tu vois, donc
là, tu me lances des beaux défis.
Que je connais pas, qui je pense a eu une belle histoire, tu vois, qui est un sportif énorme aussi, je pense. Et puis il y a Roger Federer aussi.
Ouais.
Qui est, je pense, très intéressant.
Bien sûr.
Et qui a aussi, je pense, la tête sur les épaules et qui peut parler bien de sa carrière et comment il voit le sport, quoi, au niveau. Parce que je pense que c'est des... Bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais pour moi, c'est mes trois sportifs préférés.
Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour ces recos. Merci infiniment de m'avoir donné une heure de ton temps et d'avoir pu voyager un peu sur ces différents écosystèmes. J'espère que ça t'a plu. Et puis, comme on dit, par chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc, je te dis à bientôt, Antoine.
Allez, à bientôt sur l'eau, on va dire.
À bientôt sur l'eau. Allez. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.
This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.